L'Oz Actuali, votre nouveau rendez-vous sur 48 FM.
L'Oz Actuali.
Bienvenue dans la revue de presse.
Oui, donc c'est pour ça que c'est le journal du sud de la France.
Hashtag, c'est parti.
L'Oz Actuali, le nouveau magazine de 48 FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce tout nouveau magazine. Il faut que je... Voilà, on va essayer de faire que ça marche aujourd'hui. C'est un petit peu nouveau. Bonjour à mes collègues d'émission qui viennent pour ce tout nouveau projet sur 48 FM. Bonjour Caroline.
Bonjour Guillaume.
Voilà, on se retrouve. Alors on a changé de jour.
Hein. On était le
jeudi habituellement. Ben voilà, vous nous retrouverez le mardi dans un nouveau projet. Anne-Marie nous avait quitté, donc d'Actuel et lui, et donc désormais c'est Adeline qui nous rejoint. Bonjour Adeline.
Bonjour Guillaume.
Voilà, et puis Eric nous rejoindra dans quelques instants pour compléter cette équipe. Alors au sommaire aujourd'hui, dans ce nouveau magazine qui s'appelle L'Oz Actuali, vous l'avez entendu dans ce générique. Et on remercie Ludo qui nous a fait un générique. Alors c'est un générique un peu provisoire, tout ça va s'améliorer un peu dans le temps, mais on avait très envie de lancer cette première émission, et donc bon, on est un peu, on va tester. Alors la première partie de notre émission, c'est un invité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Jean-Marc Chevalier, président d'honneur du pays d'art et d'histoire, Mandelotte en Gévaudan.
C'est exact, oui.
Voilà. Merci d'essuyer les plâtres avec nous de cette émission.
Merci pour cette invitation particulière.
Voilà, et bien sûr, on vous invite avec la perspective des Journées européennes du patrimoine qui s'annonce pour le 17 et 18 septembre, donc c'est très très bientôt. On aura une partie avec des chroniques et on retrouvera une chronique média. Je vous parlerai de France Info, la nouvelle offre trimédia du service public pour suivre les informations. Caroline, tu nous parleras de quoi ?
Je vous parlerai du... C'est un peu triste, mais je vous parlerai du décès récent de Marc Riboud, le photographe.
Voilà.
Heureusement, ces photos sont éternelles. Donc,
Et oui. et puis, donc, nous découvrirons une chronique récurrente dans cette émission qui s'appellera Hashtag, et ce sera Adeline.
Voilà, c'est ça, une rubrique sur les réseaux sociaux, hashtag ou mot dièse en français. On fera un petit cours de Twitter tout à l'heure.
Allez, c'est parti, et on terminera tout ça avec une revue de presse. Il sera question de gorilles, de Pokémon, du travail qui rendrait moins intelligent, du drapeau européen au JO, enfin bon, voilà, plein de choses qu'on vous a préparées. C'est parti. Alors c'est tellement bien parti qu'on a commencé à inonder le studio. Voilà, et donc Eric nous rejoint en plus. Alors, on commence avec notre invitée Caroline, son portrait.
Alors, une petite bio express rapide. Donc Jean-Marc Chevalier, lausérien pure souche, originaire du Val-d'Aunaise. Ah. Alors, vous nous auriez menti à une certaine époque. Il fait non de la tête.
Non, mais je ne suis pas loin du Val-d'Aunaise, mais je suis Vendois.
Oui, voilà. Plein centre-ville, en plus, actuellement.
Oui, là, pour le coup, ce n'est pas actuel, c'est vieux. de longue date.
Voilà. Un homme engagé, alors engagé politiquement, engagé culturellement, de très nombreuses casquettes sur sa tête, hein, donc salarié de la Chambre des métiers de métiers et de l'artisanat. On en parle parce qu'il va la quitter bientôt, donc c'est pas un souci d'en parler. Hein. Certains n'aiment pas qu'on mélange parfois les genres, notamment le monsieur Lozère Gourmande et une connaissance aiguë de nos entreprises de l'agroalimentaire artisanale du département, qui est une grosse activité. Mais donc, on l'a dit tout à l'heure aussi, le président d'honneur du pays d'art et d'histoire, il en a été président pendant 10 ans. On reviendra sur cet anniversaire. Il a été à la création de ce qui est devenu aujourd'hui une institution incontournable sur le territoire, hein, qui va de la Haute-Vallée d'Olt jusqu'à Chanac. Et une autre casquette associative, puisqu'il est aussi président de la Société des Lettres, avec ce très beau projet du musée Ignon Frabre en perspective et une récente convention avec la mairie de Mende. Les choses avancent. Hein, après
C'était
avoir,
dans les infos de 48 FM, juste avant cette émission.
Voilà. Les choses, après avoir stagné pendant de longues années, avancent enfin. Donc, voilà, beaucoup d'actu pour une seule tête.
Oh, il y en a qui en ont beaucoup plus que moi.
Alors, on commence avec peut-être le pays d'arrêt de l'histoire, 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 ans? Quel a été le projet de départ, finalement?
Moi, j'aimerais bien que vous nous racontiez, parce que c'est croustillant, quand même, cette montée à Paris pour la candidature. Ah. Parce que, même, Mende était face à de lourds candidats.
Alors, c'était donc en 2004. Donc, vous voyez, on est en 2016, ça fait donc 12 ans.
Vous étiez adjoint à l'époque.
J'étais adjoint
à la culture.
Et le maire était Jean-Jacques Delmas. Et effectivement, ce dossier était sur une pile à la mairie, puisque la ville avait, dans le passé, obtenu le label Ville d'Art. Et ce label devenait obsolète, et ce qu'il avait était chargé de représenter une candidature pour prolonger leur label et lui trouver une nouvelle pérennité. Et alors, du coup, on a monté un dossier important. On a fait même appel à un cabinet extérieur, parce que c'était un peu le jeu pour présenter ce dossier lourd. Et de Ville d'Art, qui était réservée un peu à la cité mendoise uniquement, on a pris le parti, parce qu'on nous l'a quand même un peu indiqué, d'en faire un territoire pour enrichir l'offre. Et c'est donc devenu un pays, puisqu'à ce moment-là, il y avait 60 ou 80 labels français Ville d'Art, et il y avait une dizaine de pays d'arrêt d'histoire. Donc on a été le 11e ou le 12e pays, et l'objectif a été de fédérer les 21 autres communes autour de Mende dans la Haute-Vallée du Lot, c'est-à-dire du Mont-Lozère, Mas d'Orcières, jusqu'à les Salelles, le bas du canton de Chanac, donc avec comme irrigation le Lot, sa source au départ. Voilà.
C'était il y a 12 ou 11 ans, c'était assez exemplaire. Aujourd'hui, on parle beaucoup de mutualisation et de regroupement, de fusion. L'époque, c'était quand même assez novateur, finalement.
C'était novateur, d'abord, parce qu'il n'y avait qu'une dizaine de zones qui avaient pris fait le choix du pays. Les communautés de communes étaient à peine naissantes. On venait de créer ça s'appelait Haute-Vallée d'Olt, avec la mairie de Mende et les trois communes, qui sont d'ailleurs toujours les trois constituantes avec Mende. Depuis, beaucoup de communautés de communes se sont créées. Et donc, on est parti sur un territoire auquel on a voulu donner du sens pour renforcer notre candidature, c'est-à-dire on lui a donné une cohérence géographique avec le bassin versant du Lot et ses affluents, notamment le Bramont et tout le Val d'Aunès, et puis une cohérence historique avec la ville épiscopale, puisqu'on est dans l'histoire. Donc Mende, et puis les possessions épiscopales à proximité de Mende, comme Chanac, qui était un peu le Castel Gandolfo local, et puis la baronnie du Tournel, qui est donc un suzerain de l'évêque, qui est en amont, donc ça monte jusqu'au Mont-Lozère, jusqu'au Causse de Mende, qui en fait partie, et la petite baronnie de Sénarès, c'est-à-dire Barjac. Donc nous avions deux baronnies, un comté évêque, dans une vallée du Lot historique avec du schiste, du calcaire et du granit. Ça faisait 22 communes. Et ce territoire avait pour particularité qu'en fait, il ne correspondait pas forcément au territoire des communautés de communes. Et donc, on a fait adhérer des communes. On n'a pas tout le canton du Blémard. On a tout le canton de Chanac. Et c'est cet espace qui a fait référence pendant pas mal de temps parce qu'il était cohérent. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il a aussi un peu éclaté parce que, avec la naissance de communautés de communes, il n'est pas certain qu'on puisse se calquer exactement sur des territoires qui viennent de naître. Malgré tout, ce sont les communes qui sont adhérentes au pays d'arrêt d'histoire, puisque c'est une association en 1901 constituée de communes en partenariat avec le ministère de la Culture. Et effectivement, en ce moment, on est un peu dans l'expectative. Alors, pour reprendre ce que vous disiez, effectivement, ensuite, le dossier de candidature ayant été déposé, il a fallu monter le défendre à la rue de Valois, à Paris, au ministère de la Culture. Et là, on est, je crois, autour du 15 juin 2004. Et donc, on est parti à Troyes, avec Jean-Jacques Delmas, maire de Mende, porteur du projet, son adjoint, moi-même, et puis Claude Feybès, qui était le maire de Saint-Étienne-du-Val-d'Aunès et qui représentait les 21 communes rurales. Et là-haut, nous avons rencontré l'architecte des bâtiments de France qui représentait l'État localement, qui était Jacqueline Rollet-Levasseur, à l'époque, le prédécesseur de Patrice Gentran. Et donc, nous avons été quatre à présenter cette affaire-là devant un grand jury d'une quinzaine de personnes. Et donc, ça s'est très bien passé. Sinon, ce jour-là, mais ça n'a pas porté atteinte à notre candidature, il y avait trois autres candidats. C'est ce que me fait raconter Caroline.
Eh oui, oui.
Donc, il y avait... Il y avait le pays de Gebwiller en Alsace, qui était un autre pays et qui a obtenu son label aussi ce jour-là, qui nous ressemblait un peu plus, à part qu'il était dans les Vosges. Et puis vous aviez la ville de Lille, qui était représentée par son maire, Martine Aubry, qui avait un dossier assez faiblard apparemment, mais qui comptait sur sa haute personnalité pour remporter le morceau. Et c'était l'année qui précédait la période où Lille allait être capitale européenne de la culture. Et donc ce label manquait un peu à la carte de visite de Lille. Voilà. Donc nous avons croisé Martine Aubry dans les couloirs, elle est passée après nous et avant nous. Elle est passée avant nous, elle est sortie très énervée, elle avait un taxi qui l'attendait. Et un des arguments de Jean-Jacques Delmas, quand ça a été notre tour, a été de dire, écoutez, si vous l'accordez à Lille, Lille n'en a pas besoin. Lille a déjà beaucoup d'atouts, alors que nous, c'est très important pour nous. Voilà. Et puis le quatrième candidat, c'était le maire de Lille Seguin, de Boulogne-Billancourt, qui était Jean-Pierre Fourcade à l'époque, ancien ministre des Affaires.
Avec le gros projet à l'époque.
Avec le gros projet qui a atterri à Venise. Voilà. Et donc voilà, on était un peu à part par rapport aux trois autres candidats. On a fait le retour de Paris dans la journée. C'est assez pittoresque. Et effectivement, je pense en particulier aux deux maires qui m'accompagnaient, puisqu'ils sont morts tous les deux.
Alors, ça, c'était la création. 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le pays d'arrêt d'histoire a proposé dans...
Alors, il a été un peu atypique en ce sens que, comme je vous le disais, il était sur un périmètre qui ne correspondait ni à une commune ni à une communauté de communes. C'était des communes toutes seules, des communes, communautés de communes entières, des morceaux de communautés de communes. Du coup, on a créé une association en 1901 et là, c'est déjà un peu atypique. Et on a créé donc un conseil d'administration avec 24 membres. quatre pour Mende exactement, l'État et puis un par commune. Et ce périmètre étant nouveau, il a fallu l'animer, lui donner du sens. Et on a embauché Nelly Lafont en 2005, qui est donc toujours en poste depuis, et qui a parcouru avec moi, sans moi, tout ce territoire, rencontré les élus, les associations culturelles, de spectacles vivants, mais de défense du patrimoine, mais des fois aussi les foyers ruraux. Enfin, on a créé beaucoup de partenariats parce que tout seul, on ne pouvait pas faire grand-chose. Et puis parce que ces partenariats nous enrichissaient mutuellement. Et on peut dire qu'on a effectivement, contrairement à beaucoup d'autres, intensifié ce partenariat associatif sur le territoire de manière à être repéré partout, à créer des synergies. D'ailleurs, il y a 2-3 ans, je ne me souviens plus, je suis allé faire une intervention à l'Association nationale des villes et pays d'arrêt d'histoire à leur demande. Et pourquoi ils m'ont demandé ça? Pour justement exposer cette particularité du partenariat associatif sur le territoire. Alors à travers ces partenariats, on a créé un festival où on a organisé 60 concerts, on a fait beaucoup de visites guidées de monuments qui n'étaient pas forcément visités de façon officielle et convenable dans le passé, type le château du Tournel, les remparts du Villard, le château du Boy, le château de Baours. Mende était sur Intramuros, était déjà un peu servi, mais le reste du milieu rural, le mausolée de la Nuéjolle, ne bénéficiait pas de ce type de prestations. On a eu comme particularité qu'on a beaucoup publié, on a beaucoup édité des documents gratuits. On a une collection de 10 ouvrages d'une vingtaine de pages sur des thématiques différentes qui balaient les 22 communes. Ça va des personnalités césèbres aux arbres remarquables en passant par les menhirs, les croix, les chapelles, les moulins. Donc ça a été quand même un ferment important parce qu'on a créé de la cohésion entre ces communes. Et ce conseil d'administration qui se réunit 3-4 fois par an se déplace en permanence d'une commune à l'autre. Le prochain a lieu dans quelques jours, il aura lieu à Barjac. Le précédent avait lieu à Chadenay.
On a d'ailleurs la photo dans la publication que tout le monde retrouvera dans sa boîte aux lettres. Enfin, voilà, tous les gens qui sont concernés par ce pays d'arrêt d'histoire à l'occasion de cette rentrée. Alors justement, on va parler des Journées européennes du patrimoine. Plein de choses à découvrir à cette occasion sur le territoire. Et puis un événement qui est... qui est co-organisée par le Pays d'Arrêt d'Histoire.
Là aussi, du partenariat
avec
fort
les scènes croisées,
depuis quelques années.
Ça fait trois années que les scènes croisées, qui sont une autre institution, mais qui est tournée vers le spectacle vivant et qui a une compétence départementale, alors que nous, nous avons un morceau de département, mais ces 22 communes font 22 000 habitants. Donc, rapporté aux 75 000 habitants du territoire, c'est quand même près de 30% de la Lozère. Et donc, les scènes croisées, à cette période-là, chaque année, lancent leur saison. Et nous, c'est un carrefour obligatoire pour notre mission que sont les journées européennes du patrimoine, puisqu'on a quand même comme mission première d'animer ce patrimoine, notamment à destination des personnes qui résident sur ce territoire avant les touristes. Et de fait, depuis trois ans, peut-être même quatre, on a considéré que le mariage était heureux, c'est parce qu'il a marché qu'on le reproduit. Et au moment des journées du patrimoine, à un endroit qu'on choisit avec eux, on crée le temps fort de ces journées du patrimoine et les scènes croisées en profitent pour lancer leur saison. Et du coup, le spectacle vivant étant quand même dominant, ils prennent une grande partie de la logistique et du cachet en charge. On arrive en complément. On a fait comme ça le mausolée de la nuit jaune une année avec un spectacle qu'on donne deux fois, le samedi et le dimanche. Une autre fois, on était dans la vallée du Lot, au Salé. Cette année, on est à Bagnoles-les-Bains.
Voilà. Bagnoles-les-Bains, donc à partir de 15h, samedi 17 et dimanche 18. Un partenariat aussi avec Route Boy Crew localement. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir avec le Pays d'Arrêt d'Histoire ?
Alors, le Pays d'Arrêt d'Histoire, dans sa vocation habituelle, il ne va pas s'arrêter à Bagnoles-les-Bains.
Évidemment.
Il va aussi animer d'autres lieux et d'autres visites guidées. Et puis le temps fort est donc Bagnoles-les-Bains, qui est de fait, ce ne sera pas Bagnoles-les-Bains l'année prochaine. Voilà. Et Robesco, comme vous l'avez signalé, est un de ses partenaires, puisqu'on les a aidés dès le début de leur festival. Et au début, on les finançait un petit peu. Maintenant, on fait du partenariat en termes de prestations, de visites guidées, d'itinéraires, de découvertes, etc. Et là, cette année, c'est un spectacle qui va s'arrêter, qui a quand même beaucoup tourné en France avec beaucoup de succès. Et donc, soit c'était cette année, soit c'était trop tard. Et donc, c'est le spectacle qui consiste à faire danser un danseur avec une pelle mécanique.
Ouais, le spectacle s'appelle Transport exceptionnel. C'est à 17h30 sur le parking des Thermes. Et à 15h, il y a une visite découverte de Bagnoles-les-Bains entre patrimoine et citoyenneté. Et à 16h45, Chemin d'Utopie d'après Charles Fourier, impromptu théâtral avec la compagnie Interstice, compagnie associée aux scènes croisées. Voilà, donc,
c'est une compagnie en résidence depuis presque trois ans maintenant, qui a encore une année, et qui entame ce travail sur Charles Fourier et sur les utopies sur toute l'année. Donc voilà, c'est un peu le lancement et c'est un peu la présentation au public de ce travail.
Voilà, donc à 15h, l'occasion à Bagnoles-les-Bains de passer toute une fin d'après-midi autour du patrimoine.
Alors, c'est un week-end très sympathique, franchement, pour avoir vécu les autres éditions.
Le samedi et le dimanche.
Voilà, le spectacle est donné deux fois, gratuitement, bien sûr, et en plein air.
Voilà. Peut-être d'autres idées, d'autres propositions que vous nous feriez comme découverte du patrimoine.
Alors, on a comme particularité par rapport aujourd'hui, je crois qu'il y a 186 zones qui sont labellisées en France. Donc, on était 100 à ce moment-là. Depuis, il y en a beaucoup d'autres. Et il y a une quarantaine de pays. Donc, ça a plutôt fait florès. Et on est quand même le seul à éditer un journal tous les ans, celui que vous avez sous les yeux, au moment des Journées du patrimoine, dans lequel, effectivement, on intègre le programme qu'on vient de mentionner. Et ce journal est un lien direct avec les 10 000 boîtes aux lettres et 22 000 habitants qui sont derrière. Et on est les seuls à faire ça depuis 12 ans. Et de fait, effectivement, on rassemble aussi tout ce qui se fait en matière d'animation du patrimoine à ce moment-là pour en informer l'ensemble de ce public. Et donc, effectivement, en collationnant, on a l'exposition qui est au tribunal avec concert, on a l'exposition du vallon du Villaret, on a l'exposition de la ville de Mende consacrée au maire de Mende de 1790 à aujourd'hui.
Ce document l'exposition des archives aussi
des
sur
archives
Marius
avec
Balmel.
Marius Balmel, que à la Société des Lettres on connaît très bien puisque c'est un de mes prédécesseurs. Et de fait, ce programme qui est distribué partout recentre tout. La visite du château de Baours, les jardins du château de Ressouche, l'exposition de Marius Balmel aux archives départementales, l'exposition à l'hôtel de ville, les visites du centre-ville, la porte ouverte à la préfecture, c'est assez exhaustif.
Si vous aviez, pour ce week-end de Journée du patrimoine, un lieu, alors qu'il soit visitable ou pas, mais votre petit coup de cœur à vous, de votre petite Madeleine de Proust, entre guillemets, de patrimoine lozérien.
J'ai peur de faire redondance, parce qu'effectivement, le château de Baours, le château de Ressouche, je les connais, le bureau du préfet aussi, le centre-ville de Mende aussi, donc c'est surtout incliner ceux qui n'y sont jamais allés à s'y rendre. Du coup, le caractère exceptionnel, c'est le spectacle dont on a parlé, qui est remarquable, qui allie la création contemporaine, les pelles mécaniques et la danse. Et c'est un spectacle qui... Moi, je l'ai vu un jour devant le château de Chambord. C'est de là que l'idée m'est venue. C'était trop cher, c'était pris depuis longtemps. Si on le voulait pour les Journées européennes du patrimoine, il fallait s'y prendre 2 ans à l'avance. C'était foutu, fallait convaincre Nicolas Blanc. Bref, tout ça fait que c'est cette année. C'est là, à mon avis, le coup de cœur.
D'accord.
Et alors, j'aime bien votre réponse, parce que vous dites souvent qu'avec le pays d'arrêt d'histoire, vous ne vous occupez pas que de vieilles pierres, et ça a quand même été aussi votre marque pendant 10 ans, c'est d'allier cette création contemporaine aux vieilles pierres.
Oui, exactement. Pour faire vivre un patrimoine, il faut le mettre dans l'actualité. Il faut le mettre avec les créateurs contemporains. Et même quand vous allez au Corégie d'Orange, certes, il y a le théâtre antique, mais il est aussi intéressant de le voir en spectacle, avec des œuvres du 19e, souvent des opéras, et des acteurs du 20e. Et c'est cette osmose entre les trois qui fait qu'il y a une magie.
Bien, alors on est arrivé au bout de notre interview au niveau du temps.
Hein. On avait dit que ça serait long, mais finalement, c'est très court.
Et voilà, 20 minutes, c'est très court. Alors peut-être en deux mots, un petit peu plus sur cette convention avec la Société des Lettres et la perspective du musée de Mende.
En deux mots, ça sera dur. Parce que la convention fait plusieurs pages, mais bon, je vais pas vous la lire. D'abord, je l'ai pas là et ça n'a pas d'intérêt. Le principe est le suivant. Le musée de Mende, qui était un musée historiquement propriété de la Société des Lettres, qu'il avait créé en 1836, donc vous voyez, c'était pas hier. Et puis ce musée s'est déplacé au fil du temps à différentes adresses, toujours à l'initiative de la Société des Lettres, qui était propriétaire des murs et des collections. Et puis à un moment donné, il y a eu quelques soucis financiers. D'ailleurs, ça n'a pas été qu'en Lozère. Ces sociétés savantes, pour porter des musées alors que les exigences étaient de plus en plus fortes, ne pouvaient plus le faire. Et du coup, elles se tournaient vers les collectivités locales. La Société des Lettres s'est tournée vers le Conseil général de l'époque, et qui a racheté les murs et qui devait réouvrir le musée et en faire un musée départemental sous l'égide du Conseil général. Voilà. Et la Société des Lettres avait confié les collections pour 100 ans au département, puisque ces collections sont inaliénables, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas les vendre, qu'on ne peut pas les lui prendre, qu'elle ne peut pas les donner. Ce sera toujours propriété de la Société des Lettres. Bon. Elles peuvent s'enrichir, ce qui viendra après sera propriété de celui qui l'aura acquis, mais le socle historique restera toujours ce qu'il est. Et donc nous avons, au fil du temps, rencontré beaucoup d'écueils, beaucoup de retards, comme l'a rappelé Caroline Gaillard. Et effectivement, depuis maintenant 3-4 ans, nous avons la conviction que la ville de Mende s'est engagée, et notamment son maire, aujourd'hui sénateur Alain Bertrand, s'est engagée sur ce projet de réouverture du musée, à l'adresse qui a été la sienne depuis 30 ans, c'est-à-dire rue de l'Épine en centre-ville. De fait, il y a eu un certain nombre d'épreuves, d'étapes, d'obstacles qui ont été franchis. Le département a donné pour l'euro symbolique les murs à la commune de Mende qui les a acceptés. Nous avons cassé la convention qui nous liait au conseil départemental pour en signer une autre avec la ville de Mende. La ville de Mende a rapatrié toutes les collections qui étaient à Saint-Alban, conservées dans des conditions qui n'étaient pas adéquates.
On ne racontera pas une visite faite en commun, mais c'était quand même folklorique.
Oui, c'est vrai. Mais ça pourrait faire un feuilleton.
Ah, ça, oui,
pour
oui,
le
oui,
coup,
oui,
les
oui,
mission serait beaucoup trop. Une heure, ce serait oui. trop. Et donc, ensuite, la mairie a bâti des réserves neuves qui sont remarquables, qui ont été visitées par la direction des musées de France en juillet dernier. Et toutes les collections ont donc été transférées dans cet établissement tout à fait moderne. Et nous avons signé il y a déjà 2 ans cette convention pour 100 ans des collections historiques avec la ville de Mende, et elle les a. Il y avait un autre volet qui était en suspens, c'était le fonds Gallière. Le fonds Gallière, c'est l'œuvre du peintre Gallière né au bord en 1914, aujourd'hui décédé, il aurait 102 ans, il est mort en 1990. Gallière est un Lozérien qui a consacré sa vie à l'art, qui a une œuvre assez importante. Pendant 47 ans, il a habité Paris à deux adresses différentes. Et il avait un legs à faire de 600 toiles, de multiples dessins, aquarelles, études, encres, etc. qui fait que c'est un fonds qui a 4000 références. Bon. Il a confié ce legs à la Société des Lettres en 1984. Donc nous sommes dépositaires et propriétaires de ce legs depuis 1984. Ce legs est parti comme les autres à Saint-Alban, il est revenu, etc. Il était convenu que nous en ferions aussi, par convention, dépôt à la ville de Mende. Ce dépôt n'était pas fait. Pour une raison très simple, c'est que l'inventaire n'était pas fait. Et pour signer la convention, il fallait bien que la pièce jointe, qui énumère tout ce qu'on est en train de confier, existe. Ça a demandé 2 ans. Et c'est-à-dire aux normes d'aujourd'hui, photographie, dimension, emballage, etc., numérotation, évidemment, tout ça numérisé. Ça a demandé 2 ans, ça a été fait aux soins d'Aurélie Jalounex, la jeune conservatrice municipale qui a été embauchée pour ce projet de musée. Et donc, l'inventaire étant achevé, nous avons signé il y a quelques jours avec le maire de Mende et le parrainage du sénateur la convention par laquelle nous confions pour 50 ans le fonds Gallière à la ville de Mende, qui sera un département du musée. J'espère avoir été...
Une clair. Des richesses voilà. du musée, hein, on peut dire quand même. Hein. Oui.
Ben voilà, c'est parfait, on a eu ce parcours. Oui, c'était important, voilà, c'était important d'en parler. Effectivement, c'était dans l'actualité de ces derniers jours, puisque c'était dans le journal de Grand 8 FM aujourd'hui. Donc voilà. Pour terminer cette première partie de l'invité, on a choisi dans l'équipe de proposer la première coupure musicale au choix de l'invité. Alors, vous allez nous dire ce que vous avez choisi, et normalement, ça va partir.
Alors, j'ai choisi Douce France de Charles Trenet.
Allez, c'est parti.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur.
Et voilà, on se retrouve. Alors, il y a une question qui brûlait les lèvres de nos différents chroniqueurs qui ne l'ont pas posée avant que le morceau parte. Alors, allez-y. Je ne sais pas,
Donc, Eric. C'était pourquoi ce choix de chanson ?
Alors, cette chanson est dans des années 40. Donc, elle est de Charlotte Rene, qui en est l'auteur, compositeur, interprète. Je trouve qu'elle colle assez bien à cette ère d'éternité qui colle à la Lozère. Il y avait un des prédécesseurs de Caroline Gaillard qui s'appelait Gérard Menatori. Je ne suis pas très jeune maintenant, et donc j'en ai connu plusieurs. Et Gérard Menatori trouvait toujours qu'en Lozère, on respirait un air d'éternité. C'était une de ses formules. Et quand on voit comment est le monde à l'extérieur, la Lozère, même si elle est pénétrée aujourd'hui par Internet et les autoroutes, elle est quand même un petit peu à l'écart. Et je trouve que l'ambiance douce de ces clochers qui dépassent des arbres ici ou là, ça ressemble un peu à la Lozère. Et puis, Charlotte Rene, c'est pas une mauvaise référence, que ce soit Beko, Aznavour, Barbara, je laisserai Brassens à mon ami Gérard Clavel, tous se réfèrent à Charlotte Rene, qui était et un mélodiste et un poète.
Bien, ben merci de cette proposition. Alors, vous restez avec nous et vous allez participer à cette deuxième partie de l'émission. Vous allez pouvoir réagir à des chroniques. Voilà, des différentes chroniques. Et on commence.
Et c'est toi qui commences, Guillaume, pour nous parler de télé. On sait que c'est ton dada quand même. Ça n'a pas changé.
Non, ça n'a pas changé, effectivement. Et même plus que télé, on va parler de médias d'une façon générale, puisque depuis 20h, le jeudi 1er septembre, sur le canal 27 de la TNT, une nouvelle chaîne d'infos est née, France Info. Une chaîne créée en assez peu de temps, issue de la convergence des rédactions de l'audiovisuel public, France Télévisions, Radio France, France 24 et l'INA, avec une mutualisation des contenus et des équipes. C'est une nouvelle chaîne, donc c'est un nouveau plateau télé, le retour dans l'atrium dans lequel ont eu lieu pendant quelques années les journaux de France 2. C'est le plateau Gilles Jacquier, du nom de ce célèbre reporter qui est décédé dans l'exercice de ses fonctions. Donc là, on retrouve dans ce grand plateau très ouvert les journaux à l'heure et à la demi et tous les lancements des différentes rubriques, on y reviendra. Il y a aussi deux nouveaux plateaux radio et télé qui, eux, sont à la maison de la radio. Le studio 221, dans lequel on retrouve l'interview politique du matin. L'émission de débat qui s'appelle Les Informés à 20h de discussion autour de l'actualité. Le Classico, donc là, l'émission sportive tous les jours. Et puis l'émission du week-end, l'émission politique, questions politiques que présente Nicolas Demorand avec tout un certain nombre de partenaires. Et puis il y a un plateau beaucoup plus simple pour le rappel des titres depuis Radio France, puisque toutes les 10 minutes sur l'antenne, il y a un rappel des titres depuis Radio France. Alors évidemment, une nouvelle chaîne, c'est aussi de nouveaux présentateurs ou des présentateurs recyclés aussi.
Oui, c'est ça, quand même. Il faut bien faire quelque chose.
Parce qu'on retrouve donc Laurent Bignolas pour la matinale. Mais quand même, c'est l'apparition d'une nouvelle génération de jeunes femmes, notamment, qui rejoignent l'équipe. Donc Karine Bast-Régis pour la matinale avec donc Laurent Bignolas. Ensuite, Louis Laforge et Soria Khaldoun pour la fin d'après-midi. Et Myriam Bounafa et Julien Benedetto pour la soirée. Des duos qui sont assez sympathiques, je trouve. France Info veut devenir une référence de l'information continue face à ses trois concurrentes, BFM, iTélé et LCI. Pour se démarquer, la chaîne mise sur la pédagogie, faire vivre l'actualité autrement, avec des décryptages nourris de reportages modules, alors du lien avec les archives de l'INA, un tableau tactile aussi pour présenter différentes problématiques, pour réagir au cours de la présentation. La chaîne Info mise aussi sur le graphisme et la réflexion en images, avec appel au dessin de presse, à des infographies, beaucoup de photos, des formats relativement innovants, humoristiques aussi, avec évidemment le but de buzzer sur les réseaux sociaux, comme on peut dire aujourd'hui, mais dont Adeline nous parlera tout à l'heure.
C'est ça.
France Info, c'est un triple média, puisqu'il y a toujours la radio qu'on peut écouter, France Info, avec des programme commun avec la télé, cette nouvelle chaîne. Et puis, c'est aussi une offre web avec la fusion des deux sites, franceinfo.fr, donc le site de la radio, et France TV Info, avec son application qui était l'offre d'infos permanente de la télévision. Et donc, voilà, cette convergence qui existe. La nuit, c'est France 24 qui assure la permanence, on va dire, entre minuit et 6h du matin, et qui pourra être éventuellement mobilisée sur des événements internationaux internationaux de grande ampleur pour prendre l'antenne et casser l'antenne, puisque c'est une chaîne d'info qui a aussi cette réactivité, même si c'est pas le but premier. Le but, c'est plutôt d'approfondir l'actu plutôt que d'être dans la réaction à l'actu chaude. Le rendu, moi, je trouve à l'écran est pas si mal, bel habillage, très vif. Parfois, ça manque un peu de son. Alors, c'est vrai que c'est très adapté aux réseaux sociaux, à des choses qu'on regarde sans forcément l'écouter. Bon, il y a encore évidemment quelques bugs techniques, mais je pense que tout ça devrait s'améliorer avec le temps. Et pour tout vous dire, j'ai presque abandonné mes habitudes sur d'autres chaînes.
C'est peu dire ça quand même.
Sur d'autres chaînes d'infos.
Et oui. Jean-Marc voilà. Chevalier, vous avez découvert
Mais ce jour-là, j'étais sur la route entre Lyon et Mende. C'était très tard, je rentrais, j'étais un peu fatigué. J'avais une journée où je ne m'étais pas du tout occupé d'actualité. Et du coup, en voiture, le soir, j'ai dit, tiens, je vais prendre France Info pour savoir ce qui s'est passé. Et ils ont répété à l'envi qu'effectivement, c'était le premier jour de leur télé. Je l'apprenais. Donc, le soir, en rentrant chez moi, là, il était plutôt minuit, 1h du matin... Ils avaient tellement dit que c'était sur le canal 27-27 que ma première idée, ça a été « Est-ce que tu l'as chez toi ?» Et donc, je l'ai regardé ce jour-là. J'ai vu...
Il ne faut pas faire un petit...
Alors, il faut soit mettre... Si on est avec un décodeur classique TNT, il faut mettre à jour. Hein, c'est ça, cher.
Voilà. Moi, j'ai rien mis
et
à jour.
Et si on est sur une box, généralement, ça se fait tout seul.
Enfin, ça s'est fait tout seul chez moi. Et donc, j'ai vu Roger-Louis Laforgue.
Louis
Laforgue, oui, ça en est un autre. Et j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Mais après, j'ai repris mes habitudes et je n'y suis pas retourné.
Moi, je n'ai pas encore découvert, je dois avouer.
Mais je l'ai vu le premier soir, par hasard.
Adeline, non
Non, toujours pas, non. Cette semaine,
dans le buzz sur les réseaux sociaux, un des premiers trucs qui a fait le buzz, c'est une météo décalée avec des bouts de citations de Donald Trump, d'actrices, enfin bon, voilà, qui étaient complètement décalées, mais qui racontaient bien la météo du lendemain. Donc voilà, il y aura ce genre de choses aussi qui vont, des choses un petit peu marrantes qui devraient exister. Voilà.
Bon, voilà sympa, pour cette chronique. Sympa. Est-ce qu'on peut dire que sans tomber dans le trimédia, nous espérons que cette émission va quand même prendre sa place, parce qu'Adeline est parmi nous, est quand même un peu spécialiste de
oui,
tout ça.
Alors
c'est en construction, mais on espère vite être au moins bimédia.
En tous les cas, vous pouvez d'ores et déjà réagir sur les réseaux sociaux avec un hashtag LoseActuali.
Un hashtag LoseActuali, et puis... Sur le hashtag aussi 48FM Mende, voilà. Avec le compte aussi Twitter de 48FM Mende.
Voilà.
On fera du live tweet pour relayer vos messages.
Voilà. Et on a sur Facebook des gens qui nous ont fait des petits messages d'encouragement pour cette première, voilà. Notamment notre président de radio. Donc on le salue, on le remercie pour cet encouragement.
Voilà, et n'hésitez pas à nous parler de cette première émission et de votre ressenti. C'est important pour la suite.
Tout à fait. Allez, une petite virgule musicale et on poursuit avec une deuxième chronique. Voilà, voilà, voilà. Deuxième chronique, Caroline. Cette fois, c'est toi pour de la culture, on va dire, un hommage.
Oui, un hommage. Alors, d'abord à un photographe que j'adore. Et puis, alors, j'ai découvert, je ne le savais pas, qu'il était lyonnais et qu'il était même originaire du village à côté du mien. Donc, forcément, ça crée encore plus de liens. Cet homme ne pouvait pas être mauvais, décidément. Voilà, alors si je vous dis La fille à la fleur ou Le peintre de la tour Eiffel, tout le monde a en tête, je crois, ces images, ces deux photographies. Hein, ce peintre en équilibre au milieu des poutrelles, son pinceau à la main, ou cette jeune fille militante contre la guerre du Vietnam face aux baïonnettes et aux soldats. Tout le monde voit qui est Marc Ribou, qui a été président un temps de l'agence Magnum. Et qui en est parti parce qu'il trouvait que l'ambiance était trop à la compétition entre photographes et ce n'était pas sa volonté à lui. C'est quelqu'un qui a démarré au XXe siècle. Hein, Jean-Marc Chevalier, vous en parliez tout à l'heure, un siècle riche. C'est à l'exposition universelle de Paris en 1937 qu'il a pris ses premières photographies avec un petit West Pocket qui avait été offert par son père pour ses 14 ans. Voilà. Et c'est aujourd'hui un des plus grands photographes connus du monde entier. Il a fait des études d'ingénieur à l'école centrale de Lyon, travaillé en usine. usine. Et puis c'est ensuite, après la guerre, qu'il a décidé de se consacrer à la photographie. Il a obtenu une première publication dans le magazine Life en 1953. Et puis il est rentré donc à l'agence Magnum à l'invitation d'Henri Cartier-Bresson et de Robert Capa. Et c'est surtout en Asie qu'il a œuvré. Alors, il est allé partout dans le monde, bien évidemment, mais il a fait énormément de choses en Asie. Et pour ceux qui auraient envie de se pencher un petit peu plus, je vous recommande quelques livres qui concernent l'Asie. J'ai perdu ma page, je l'avais pas notée. Alors, Wang Sang et puis Demain Shanghai sont parmi ses ouvrages notamment les plus célèbres. Pour ceux dans la région qui souhaiteraient voir ses œuvres, Visa pour l'image, qui dure jusqu'au week-end prochain, expose actuellement ses photos de Cuba, prises en 1963, après l'assassinat de Kennedy. Des photos qui font écho à une publication faite mi-août d'un livre qui s'appelle Cuba également. Alors bien évidemment, très très nombreuses publications de Marc Riboud, tous les livres de Magnum comportent quelques-unes de ses photos. Alors, il a légué une partie de son œuvre au Centre Pompidou en 2011. Et puisque sa mort est toute récente, fin août, on vient de découvrir qu'il léguait l'ensemble de ses archives au Musée Guimet de Paris. Voilà, donc on pourra... qui doit lui consacrer prochainement, du coup, une grosse exposition. Donc on pourra découvrir ou redécouvrir ce photographe. En tout cas, grosse sensibilité et des images très très belles du monde entier.
Est-ce que autour de la table, vous connaissiez Marc Riboud, photographe ?
Alors étonnamment, je connaissais les photos, mais en effet, je n'avais pas forcément associé le photographe le nom. Et le nom, parce que c'est des photos qui ont beaucoup tourné aussi, voilà, et qu'on voit très souvent.
C'est vrai que les photographes, on connaît un, deux grands noms, mais pas forcément tous. Mais oui, il y a des photos qui marquent vraiment l'histoire et qui nous ont tous marqués. Donc celles-là, elles en font partie. Ouais.
Il aurait pu donner quelque chose à Arles.
Complètement.
Qui est la capitale de la photographie et du musée de la photographie. Certes, le musée Guimet, c'est le musée d'art oriental. Il connaissait très bien l'Asie. Mais moi, je serais arlésien, je serais vexé.
Alors moi, j'espère que donc, dans sa ville natale, Saint-Genis-Laval, il y a aussi quelques œuvres, parce que du coup, je vais me renseigner et je ne manquerai pas d'y aller.
Voilà, donc à découvrir, on peut retrouver évidemment plein de photos à l'occasion de ce décès qui ont été publiés dans les différents médias pour se rappeler cette œuvre existante.
Sur quelque chose de beaucoup plus français, il a beaucoup travaillé sur l'indépendance algérienne. Il y a aussi beaucoup d'images sur ce thème.
Bien, alors encore une virgule musicale et la nouvelle chronique, hashtag. Alors Adeline, qu'est-ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux cette semaine ? Alors on va peut-être commencer par se familiariser avec tout ça, Twitter.
On ne peut pas commencer une saison connectée sans déjà un petit peu vulgariser ce dont on va parler, et notamment en deux mots, qu'est-ce que c'est que Twitter ? Puisque sur les tendances hashtag dont je vous parlerai, ça sera principalement issu du coup des tendances Twitter. Donc rapidement, un outil de microblogging avec une contrainte de messages courts, 140 caractères. Le principe, c'est qu'on suit un compte, on relaye de l'information, on publie des messages. Et le hashtag, donc le fameux mot dièse, permet d'associer un sujet, une thématique, en fait, au message qu'on va rédiger.
Un mot-clé, quoi.
Un mot-clé, tout à fait. Avec aussi la possibilité d'utiliser le arrobase pour associer à son message un interlocuteur, par exemple. Donc, voilà, vous pouvez d'ores et déjà utiliser le arrobase 48FMMand, par exemple, pour nous écrire un petit mot qu'on relaiera en direct tout au long de ce magazine. Twitter, c'est aussi un outil de veille. On n'est pas obligé d'avoir un compte pour suivre les tendances. Bon, en l'occurrence, 48FM et puis moi-même, j'ai un compte. Donc, on fera avec de l'info un peu plus poussée. Mais vous pouvez quand même vous rendre sur Twitter et suivre un petit peu ce qui se passe. Donc, on a les bases. Donc, vous pouvez d'ores et déjà commencer à tweeter, à nous suivre et à relayer l'information.
Jean-Marc Chevalier, vous tweetez ?
Pas du tout. Je ne suis sur aucun réseau. Si on veut me téléphoner, il faut décrocher son appareil.
Vous avez un portable.
Oui, j'ai un portable et d'autres ont mon numéro.
C'est déjà pas mal.
Ouais, c'est déjà pas mal.
Et on peut rajouter des liens aussi, parce que je me souviens qu'au début de Twitter, j'avais vu des personnes qui tweetaient, je sais pas, 15 tweets d'affilée pour écrire un message. Maintenant, on peut quand même renvoyer un lien pour, pour avoir son message.
On peut inclure des liens vers des sites, des images, des vidéos. Mmh. C'est infini presque, les possibilités de Twitter.
Bien,
donc
alors,
les tendances de la semaine.
Oui, les tendances alors, de la semaine.
Côté tweetos, alors tweetos c'est un des termes que j'emploierais qui veut dire du coup justement ces accros et ces gens qui tweetent et qui utilisent Twitter et qui relaient l'actualité. Donc les tweetos cette semaine ont beaucoup utilisé deux hashtags très politiques, le hashtag Cahuzac et le hashtag Big Magnon. Voilà, donc deux figures politiques un petit peu dans la tourmente judiciaire cette semaine. Je ne reviendrai pas sur les affaires en question, mais voilà, deux hasards du calendrier, peut-être aussi, on ne sait pas. Alors, les tweetos s'amusent justement avec la comparaison, et on a pas mal de petits tweets très sarcastiques sur la rentrée politique et le hasard de ces deux affaires au même moment. Voilà. Côté actu lozérienne, on a des hashtags plus locaux, du coup, sur l'actualité numérique avec l'installation du nouveau relais de téléphonie à Saint-Frézal-de-Ventalon. Pas mal de hashtags autour du nouveau IRM à l'hôpital. Et puis encore quelques hashtags touristiques avec justement des photos de paysages, des derniers rayons de soleil avant l'orage, dit-on sur Twitter, voilà, l'automne arrive apparemment, selon les tweetos. Donc voilà sur la rubrique hashtag que je vous propose aujourd'hui.
Alors on dit que c'est un peu réservé, c'est un petit peu un club de professionnels Twitter par rapport à Facebook, hein, j'entends. Mm-hmm.
Complètement, ouais. Twitter, c'est un réseau social principalement professionnel et qui a moins cette dimension sociale que peut avoir Facebook, en tout cas.
Bah, c'est-à-dire que c'est une information qui est publique de quasiment, sauf les quelques comptes bloqués, privés, mais c'est très rare parce que finalement, c'est très peu intéressant. Au final, on publie et tout le monde peut lire sans distinction. Et c'est vrai qu'on a moins la logique de communauté autour de soi, avec ses amis,
Alors, il y a quand même des petites subtilités au fur et à mesure des chroniques. On pourra aller un peu plus loin dans l'utilisation de Twitter, mais on a le principe des followers, par exemple. Donc, il faut suivre des comptes ou être suivi par certains comptes pour voir l'actualité des autres. Donc, c'est des petites subtilités. Mais
surtout un concours pour être suivi, pour avoir le plus de followers.
Voilà, possible. Exactement. Donc, on peut s'amuser à jouer au concours de celui qui a le plus de followers.
Après, c'est un bon outil aussi pour suivre l'actualité, parce que beaucoup de médias publient sur ces outils. Et je pense que dans la rubrique qui va venir juste après, pour certains d'entre nous, nous sommes servis de nos réseaux sociaux pour tomber sur ces articles. Donc, ça fait aussi partie de ça.
C'est un vrai fil d'actualité. Enfin, moi, dans ma profession, c'est un vrai fil d'actualité. Bon, après, il faut bien cibler justement ses followers et... Mais c'est, pour le coup, ça, je pense que ça a pu remplacer au niveau local et l'AFP.
Et Twitter a une dimension plus virale aussi de l'actualité que Facebook. Voilà. Ça va très vite de retweeter une actualité, de le partager. Voilà,
Et elle peut être commentée en direct.
Elle peut être commentée en direct aussi, ouais. On en parle.
Voilà, tout ça, ça viendra, vous verrez. Il y aura peut-être du Facebook Live bientôt. Enfin,
voilà,
tout
ça, on en parle.
Jean-Marc Chevalier, pourquoi êtes-vous allergique? Enfin, pas allergique, mais en tout cas hermétique, on va dire, pour l'instant.
Mais quand je vois, par exemple, mes enfants, j'ai 4 enfants, et en ce moment, ils ne parlent que de Snap.
Ah,
Snapchat.
Vous n'en avez pas parlé.
Non.
Où on envoie des images éphémères à quelqu'un, ou à quelques-uns, ou à pas mal, qui vont les voir ou pas les voir, et cette image va disparaître dans un certain
délai.
C'est ça,
s'ils ne les ont pas vues vite, tant pis pour eux.
Et ce système fait qu'il faut toujours dire où on est, qu'est-ce qu'on est en train de manger. Ce genre, à mon avis, d'excès me révulse un peu, et du coup, je ne vais pas du tout sur Facebook non plus. C'est peut-être un peu primaire, mais il faut bien qu'il y ait plusieurs catégories de gens dans la société.
Bien sûr, bien sûr.
On déduira peut-être aussi des chroniques, justement, à tous les travers et à tous les aspects négatifs des réseaux sociaux aussi. On en parlera.
Bien sûr.
Bien, je vous propose une deuxième coupure musicale avant notre revue de presse. Et pour cette deuxième coupure, je vous propose d'entendre, vous avez entendu dans notre habillage un peu, qui est vraiment le début de l'habillage vraiment de cette émission. Voilà, c'est évidemment parti d'un morceau initial. Et donc, c'est James Brown, Unchained. Hein, pour ceux qui prononcent mal.
Django Unchained. Ouais, c'est ça.
Oui,
ça
voilà.
Ça se dit comme ça, je crois.
Allez, c'est parti. Voilà, vous avez entendu ce morceau qui nous servira de jingle dans cette Los Actuali, le nouveau magazine de 48FM. C'est maintenant la revue de presse, voilà, un nouvel exercice pour nous tous ici. Et donc au programme, on va essayer de réagir à certains articles. Et on commence avec Caroline et des gorilles en voie d'extinction.
Alors ça aurait presque pu faire le hashtag parce que tellement ça a été repris. La nouvelle est tombée dimanche et ça a été
aujourd'hui
repris.
Aujourd'hui c'était
depuis
le hashtag. Voilà, j'ai fait ma chronique hier soir et du coup, mais aujourd'hui c'était un des hashtags.
Bon, l'histoire, c'est l'annonce a été faite dimanche par l'Union nationale pour la conservation de la nature, le plus grand gorille du monde, le gorille de l'Est, hein, Gorilla Beringei, est classé depuis dimanche dans la catégorie des espèces en danger critique. Il n'en resterait plus que 5000 exemplaires, entre guillemets. Voilà. Alors, c'est un gorille qui est notamment présent au Congo et qui a malheureusement subi les conséquences de tout ce qui se passe actuellement en Afrique et de toutes ces guerres et de tous les brassages de population qui en découlent. C'est aussi un animal qui, malheureusement, est chassé par d'affreux cons qui n'hésitent pas à s'exhiber sur Facebook, puisqu'on en parlait, c'est un des travers de ces réseaux sociaux. J'utilise ce mot avec beaucoup de conscience, hein, bien évidemment. Bien évidemment, c'est dramatique parce que c'est quand même nos cousins les plus proches. Hein, on sait que ces grands singes sont nos cousins depuis très très longtemps et leur disparition est quand même, enfin, ou l'annonce de leur disparition prochaine est quand même quelque chose de dramatique. Alors cette nouvelle s'accompagnait d'une bonne nouvelle et je tiens à la signaler parce que je me dis que du coup rien n'est irrémédiable. Dans le même temps, cette Union nationale pour la conservation de la nature annonçait que grâce aux mesures prises par la Chine depuis quelques années, le panda géant n'est plus dans cette même catégorie des espèces en danger critique. Donc voilà, il suffit d'un peu de volonté et puis de quelques efforts pour que les choses s'inversent Et je crois que l'homme a tout intérêt à ce que sur la planète, les choses s'inversent. Il y a déjà, avec le réchauffement climatique, suffisamment à faire sans en plus aller disséminer des espèces.
Des réactions autour de la table ?
Je crois qu'il y en a... Enfin, il y en a plusieurs aussi là, qui ont été annoncés ces derniers jours en voie de disparition.
Voilà, oui.
Il y a notamment les éléphants d'Afrique,
les orangs-outans de Bornéo et de Sumatra. La liste s'allonge malheureusement. Mm-hmm. Et effectivement, à nous d'être vigilants à ça, en tout cas.
Bien, alors maintenant on passe à des animaux qui ne sont pas du tout
en voie d'extinction.
Voilà. Même s'il y a peut-être un petit peu moins d'utilisateurs ces dernières semaines. Mais donc on parle de Pokémon Go, Adeline.
Tout à fait, oui. À moins du coup d'être totalement déconnecté ces dernières semaines, vous avez sans doute dû observer des comportements étranges de personnes se baladant le téléphone rivé à la main dans les rues et qui subitement changent de direction ou se précipitent quelques centaines de mètres plus loin. Toujours le même téléphone rivé à la main. C'est normal, ne vous inquiétez pas, ça s'appelle le phénomène Pokémon Go.
On a bien compris qu'Adeline allait nous expliquer tous les phénomènes technologiques qui se passent. Voilà, ce sera notre experte.
On aura bien compris que Jean-Marc Chevalier ne joue pas
à Pokémon Go.
Mais heureusement.
Et vos enfants, oui, peut-être.
Non plus. Enfin, j'espère qu'ils jouent pas. Mais j'en ai vu qui jouaient.
Non, mais ça fait bouger beaucoup de gens qui sont sortis de chez eux pour aller traquer le Pokémon.
Oui, ouais, on dit que ces ados qui restent rivés à leurs écrans ont enfin découvert la rue.
Et des sites patrimoniaux en plus.
Ah, alors oui, justement.
Tous les moyens sont bons.
Toutes les subtilités de l'article dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est un article du Monde, d'ailleurs issu de la rubrique Pixel, qui est une rubrique du Monde sur les cultures numériques, justement, spécialisée. Donc juste en deux mots, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas forcément de quoi on parle, Pokémon Go, c'est un jeu de réalité virtuelle qui permet de chasser des petits monstres virtuels grâce à son téléphone. Donc pour jouer, l'utilisateur doit s'approvisionner à des Pokéstops, donc des emplacements virtuels toujours, qui distribuent des Pokéballs nécessaires pour attraper les Pokémon et les divers petits objets farfelus qu'on peut mettre dans son sac à dos. Donc personnellement, je ne suis pas fan de Pokémon, mais dans ce phénomène ou dans cette mode, je trouve qu'il y a quelque chose d'amusant et qu'en tout cas, c'est un terreau propice pour analyser des masses de données qui sont soit générées par le jeu, soit utilisées du coup par la société éditrice qui s'appelle Niantic, la société éditrice de Pokémon Go. Alors, resituons un petit peu en Lozère le phénomène. On est quand même loin des ruées qu'on a observées au moment du lancement du jeu, notamment au Japon ou dans des grandes villes, qui ont d'ailleurs certaines étaient contraintes de limiter l'accès à certains sites historiques ou patrimoniaux aux utilisateurs et aux joueurs de Pokémon Go. J'ai eu l'occasion de faire quelques balades tranquilles en centre-ville ces derniers temps avec une amie chasseuse occasionnelle de Pokémon. Et je me suis rendu compte que, en fait, les Pokéstops n'étaient pas si nombreux que ça en centre-ville de Maine.
Tout à fait.
Et c'est bien ces fameux Pokéstops qui sont en question dans l'article du Monde dont je vous parle aujourd'hui, et d'essayer de comprendre pourquoi ils ne sont pas répartis de manière égalitaire sur le territoire. Parce que oui, ils ne sont pas répartis de manière égalitaire en fonction des villes et des lieux dans lesquels on se trouve. Donc rapidement, vous dire qu'il faut remonter à un autre jeu qui a été développé par cette même société, Niantic, un jeu qui s'appelle Ingress, qui est sorti dans les années 2010-2012. Et dans ce jeu, donc prédécesseur de Pokémon Go, les joueurs cherchaient des portails qui étaient situés dans des endroits remarquables, donc des bâtiments historiques, des sites architecturaux, sur des endroits de statues, par exemple, dans des parcs. Mais à l'époque, ce sont les joueurs eux-mêmes de ce fameux jeu Ingress qui ont construit la carte collaborative des portails un peu partout dans le monde, et donc situé sur des sites historiques. Donc aujourd'hui, la localisation de ces fameux Pokéstops se base sur cette carte collaborative créée donc au moment du lancement du jeu Ingress. Sauf que cette carte construite par les joueurs du jeu Ingress, ils se trouvaient le plus souvent dans des villes, dans des centres urbains, à proximité de centres historiques, dans des quartiers aisés, puisqu'à l'époque, c'était déjà des gens un petit peu geeks, un petit peu connectés et équipés aussi de smartphones déjà un peu évolués. Et du coup, dans cet article du Monde, les journalistes ont collecté des données issues des portails Ingress dans plusieurs villes, à Paris, en banlieue, à Strasbourg et à Guéret, dans la Creuse.
Oui, voilà. Ils auraient pu faire Mende, mais non. Ils ont fait Guéret.
Et donc, apparemment...
Petite dédicace à Anne-Marie.
Oui, voilà.
On fait un petit coucou à Anne-Marie, notre...
qui est originaire de là-bas.
Mais oui, voilà, évidemment.
Et donc, apparemment, il y a plusieurs multifacteurs qui expliquent en effet ces inégalités de répartition dans les Pokéstop. Donc, évidemment, la richesse du patrimoine, la proximité avec des lieux historiques, l'âge des populations, le nombre de joueurs, du coup, qui ont utilisé le jeu précédent, Ingress.
Mais alors, le pays d'arrêt d'histoire devrait être une richesse pour les Pokémon.
Je ne suis pas certain que les gens qui courent derrière ces petites bêtes soient intéressés par les murs qui les portent.
En effet, c'est une question.
C'est une question. Mais alors, Amende, c'est notamment les fontaines qui sont des Pokéstop.
Les fontaines, la cathédrale aussi.
C'est pas une arène.
Voilà,
la cathédrale est une arène.
La mairie aussi.
Alors, c'est quoi une arène?
Alors, une arène, c'est un espace virtuel toujours où on va faire combattre ces petits Pokémon quand on les a capturés. Voilà. Et du coup, dans tous les cas, la conclusion de l'article du Monde, c'est que les villes et les villages les moins peuplés sont dans tous les cas les plus désavantagés par rapport à la répartition des Pokéstops. Je crains que...
C'est pas bien grave.
Pour le coup, voilà.
Je crains que les chasseurs, du coup, les joueurs lozériens se lassent vite des 6 et 7 Pokéstops, m'a-t-on dit, en centre-ville. Mais rassurons-les... nos villes et nos villages regorgent de Pokémon rares. Donc on n'a pas forcément les Pokéstop, mais on a des Pokémon rares.
Et de toute façon, pour ceux qui ne chasseraient pas les Pokémon, il y a l'ouverture de la chasse. C'est tout prochainement, c'est ça, hein,
c'est
Carole?
Ça, c'est ce week-end. Hein, c'est voilà.
Ça. Donc, si vous vous rendez...
En zone de campagne, à la limite...
Alors, si certains voient des sangliers déguisés en Pokémon, il faut arrêter l'apéro avant d'aller chasser, quand même. Hein.
Par contre, vous pouvez vous rendre à Bagnoles-les-Bains ce week-end, sur la manifestation du Pays d'Arrêt d'hier soir. Vous y trouverez peut-être aussi...
Le week-end prochain, 17-18. Voilà. Hein,
ouais. 17-18. Bien, on continue et maintenant c'est un article tout à fait de rentrée.
C'est ça.
Eric, travailler trop après 40 ans rendrait moins intelligent.
Rendrait moins intelligent, c'est ça.
Tout est dans le trop.
Oui, c'est ça. Oui.
C'est vrai qu'en plus on va être bientôt dans une année électorale, donc je pense que ça va être un sujet qui va revenir assez souvent.
De quoi, l'intelligence ou le travail?
Oui, l'intelligence. Donc en fait là, c'est l'article est tiré d'une étude qui a été faite au Japon, donc dans une université de Keio. Donc je sais pas si je prononce bien Keio. Donc j'ai regardé, c'est quand même l'université privée donc la plus cotée au Japon. Donc c'est pas une petite université, qui ont fait une étude sur 6500 travailleurs de plus de 40 ans, donc 3500 femmes et 3000 hommes. Et donc ils se sont penchés sur la manière de travailler, le rythme du travail et comment il pouvait influencer les capacités intellectuelles. Donc résultat, après 40 ans, notre cerveau rencontrerait davantage de difficultés à encaisser une semaine complète de travail. Donc si le travail il encourage toujours le maintien des fonctions cognitives, ce n'est pas vrai au-delà de 25 heures de travail. C'est-à-dire qu'au début... En faisant les analyses, c'est-à-dire que le travail donc permet de développer bien ses capacités intellectuelles, mais dès qu'on dépasse 30 heures en fait, ils se sont aperçus qu'il y avait une chute directement une chute des capacités intellectuelles, donc qui serait due au stress et à la fatigue. Donc voilà, donc ça montre que finalement, travailler plus pour gagner plus, je ne sais pas. En tous les cas, travailler plus pour travailler mieux, a priori, c'est sûr que non. Donc, certains parlent que ça pourrait permettre de...
Mieux partager
le travail, mais il n'y a peut-être pas que cette raison-là, finalement, de réduire son temps de travail. Ça pourrait peut-être aussi permettre de mieux travailler, en sachant que, voilà, ça permettrait de diminuer son stress et d'avoir du temps un peu pour faire autre chose.
Moi, je trouve que c'est une bonne résolution.
Moi, ça me plaît beaucoup.
Je sens que Caro va se faire des plannings.
Je vais essayer de faire diffuser ça vers Montpellier, moi, si on pouvait étendre l'antenne quelques temps, là.
Enfin, si j'avais connu cette rubrique, au lieu de choisir Charles Trenet, j'aurais choisi La quarantaine de Philippe Clay.
Ah, voilà.
Parce que Einstein n'aurait pas inventé et tant d'autres. Et puis, si on va jusqu'au bout de votre remarque, le seul candidat qui vaut pour la présidentielle, c'est Macron.
C'est sûr.
Après, c'est d'une manière générale.
Donc, ça mérite de pleurer avec beaucoup de recul.
Après, c'est d'une manière générale. Il y a forcément des... Non, ils ne disent pas exactement les métiers. Peut-être que ça dépend aussi des métiers. Là,
Les autres ne travailleront peut-être que 25 heures, en plus.
Ah oui, mais peut-être qu'on a besoin aussi de gens qui...
mais ce qui est quand même dit, c'est que les capacités intellectuelles des personnes travaillant environ 55 heures par semaine seraient semblables à celles des retraités, donc des personnes moins stimulées au quotidien.
C'est ça.
Donc en gros, il ne faut pas faire d'heures sup, quoi. Voilà ma résolution pour la rentrée.
Après, au bout d'un moment, on s'éparpille trop, peut-être.
On peut avoir un mot d'excuse en sortant de l'émission.
Voilà, moi je voulais dans cette revue de presse vous parler aussi de quelque chose qui s'est passé cet été. Un article de Courrier International le 12 août en faisait écho. C'est une escrimeuse italienne qui a invité un peu l'Europe aux Jeux Olympiques en descendant du podium après avoir reçu sa médaille. Donc l'italienne Elisa Di Francesca a dégainé un drapeau européen pour appeler à l'unité, un geste assez symbolique. Qui a fait un petit peu réagir, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, elle s'exprime, elle explique pourquoi elle a voulu faire cela. Donc, l'escrimeuse italienne dit « J'avais cette idée en tête depuis très longtemps. Je n'en pouvais plus de tous ces attentats partout en Europe. Par ce geste, j'ai voulu signifier mon tourment à l'idée que le terrorisme puisse entrer dans la tête des gens. S'il parvient, nous finirons par avoir peur les uns des autres. » voilà, finalement, pour le Corriere della Sera qui a publié notamment cet article, c'est finalement un symbole que l'Europe existe et que si l'Europe politique reste à construire, l'idéal européen est vivant. Voilà, un message finalement assez intéressant dans une période où on parle de Brexit, où on parle de voilà. Et donc c'est effectivement aussi une belle incarnation de cette génération Erasmus aussi liée au développement de ce programme européen et finalement cette génération finalement peut-être plus européenne que les générations plus anciennes. Voilà, c'était mon...
Et après, c'est vrai qu'en plus, les sportifs, maintenant, on leur demande d'être bien lisses, de ne pas déborder, et surtout pour tout ce qui est publicité, tout ça. Et donc, c'est vrai que c'est bien que ce soit une sportive, parce que pourtant, ils ont une vitrine, qui est surtout là, pendant les Jeux Olympiques, ils sont vus par tout le monde. Donc, qu'ils puissent faire passer un ou deux messages, c'est quand même assez positif.
Ouais, c'était un moment très chouette des JO, effectivement. Ouais.
Voilà, mais écoutez, on arrive à la fin de cette émission. C'était, j'espère, pour vous tous, un bon moment avec nous.
On a eu un commentaire sur Twitter, sur quelqu'un qui a trouvé nos rubriques très sympathiques.
Ah. Voilà. C'est quelqu'un qui nous connaît, peut-être.
C'est quelqu'un qui nous connaît.
Bon, on le salue, on le remercie. et donc on se donne rendez-vous dans 15 jours évidemment pour une nouvelle émission en direct.
Merci à Jean-Marc Chevalier d'avoir essuyé ses plâtres avec nous, les murs sont à peu près droits.
Ça a été avec plaisir.
Vous serez le parrain de cette émission.
J'espère qu'elle durera longtemps.
Merci.
Donc les rediffusions, c'est le jeudi à 19h, le mardi à 12h30. Donc vous pouvez toujours, bien sûr, sur 48fm.org dès ce soir. Vous pouvez également toujours interagir avec nous avec le fameux hashtag LoseActuali. Et puis on va rappeler le rendez-vous pour les journées européennes du patrimoine, samedi 17 et 18 à Bagnoles-les-Bains à partir de 15h pour cet après-midi, à la fois par le pays d'histoire, les scènes croisées, Road Boy Crew, des découvertes, visites et un spectacle qui mêle une pelle mécanique, de la danse et un peu de patrimoine. Voilà tout ça pour ce rendez-vous des journées européennes du patrimoine, 17 et 18 septembre à 15h à Bagnoles-les-Bains. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.
Au revoir.
Merci.
L'Ose Actuali,
votre nouveau rendez-vous sur 48FM.
Los Actuali.
Bienvenue dans la revue de presse.
Oui, donc c'est pour ça que c'est le journal du sud de la France.
Hashtag, c'est parti.
Los Actuali, le nouveau magazine de 48FM.